grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, bienvenue en direct ou en podcast. Dans deux semaines, vous voterez peut-être aux élections européennes. Dans les médias, dans le discours politique, il est souvent question d'économie, d'euros, d'immigration, de Brexit, de règlements divers et variés, d'un Bruxelles bureaucratique et législateur. Et ce matin, nous mettons un peu de chair dans cette Europe souvent abstraite. Nous vous proposons quelques escapades pour un week-end à Londres, Rome, Helsinki, Lisbonne, ou même Charleroi, en bus, en train ou en avion, pour toutes les bourses. Nos experts vous font partager leur lieu préféré, insolite, secret, même dans une grande ville qui sature, comme Barcelone, comme la capitale de la Catalogne, certaines destinations touristiques européennes étouffent sous la masse des touristes. Nous verrons ce qu'il faut penser des mesures restrictives pour limiter le nombre de touristes à Venise ou sur l'île grecque de Santorin. Pour nous faire voyager ce matin, Gavin Clément-Ruiz du Guide du Routard, Sophie Jovillard de France 5 et Sandrine Mercier de la très belle revue AR. Et vous, quelles escapades européennes, quel lieu secret avez-vous envie de partager? 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Dites-nous également s'il faut limiter l'accès à certains lieux touristiques en Europe. Bonjour Guillemette Odissino.
Bonjour Ali.
On retrouve votre esprit d'escalier tout au long de l'émission et deux destinations qui vous sont chères.
Oui, mais maintenant je suis en train de regretter, vous venez de parler de Lisbonne. Oh, je ne l'ai pas mis dans ma liste.
À tout à l'heure. Bonjour Éric Libio.
Bonjour Ali.
Rédacteur en chef culture à l'Express. On retrouve votre éternel retour en fin d'émission.
Et oui, on va essayer de voyager dans le cerveau des inventeurs. J'ai essayé de bricoler une chronique sur le concours Lépine, mais je ne suis pas sûr d'avoir réussi.
A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rébéi.
Bienvenue à nos invités. Bonjour Gavin Clément-Ruiz.
Bonjour Ali.
Vous êtes romancier et rédacteur au Guide du Routard. Bonjour Sophie Jovillard.
Bonjour.
Vous êtes l'une des présentatrices, l'un des visages de l'émission Échappée Belle, le samedi soir à 20h50 sur France 5. Bonjour Sandrine Mercier.
Bonjour Ali.
Vous êtes rédactrice en chef de la très belle revue AR, je l'ai dit, AR comme aller-retour.
Oui, parce qu'un voyage sans retour, c'est un peu triste.
Donc, et, à la une, et à la une.
Et bien c'est la Suisse à la une, les trains avec vue, avec une très belle vache qui porte une sorte de couronne de fleurs qui s'élève vers le ciel, elle donne envie.
Et on évoquera la Suisse avec vous tout à l'heure. Alors avant de commencer, pourquoi aimez-vous voyager? Qu'est-ce qui vous pousse à partir? Pourquoi ne pas rester tranquillement chez vous, Gavin Clément-Ruiz?
Alors moi c'est vraiment pour le découvrir à chaque fois, alors, c'est un peu bateau, hein, mais c'est vrai que c'est de découvrir des gens complètement différents, que j'aurais jamais rencontré autrement, en bougeant les fesses et en allant voir ailleurs.
Sandrine Mercier.
Ben moi je dois dire que ça m'a sauvé la vie.
Pourquoi?
C'était à la fin de mes études, je m'étais un peu trompée de voie, je travaillais chez Danone et j'ai démissionné, je suis partie faire le tour du monde, il y a presque 30 ans maintenant. Et c'est dans ce tour du monde que j'ai trouvé la rencontre avec les autres, le temps de me centrer sur ce que j'avais vraiment envie de faire. Et quand je suis revenue, j'ai eu envie d'être journaliste et puis je suis rentrée à France Inter à l'époque.
Sophie Jovillard.
Je crois que c'est se confronter à d'autres réalités, c'est expérimenter de nouvelles choses et c'est peut-être aussi explorer des choses en soi qui sont bonnes, c'est la tolérance, l'ouverture aux autres, l'ouverture d'esprit. Et je crois que c'est Sylvain Tesson qui cite souvent Blaise Cendrars en disant à qui on posait la question « Pourquoi voyagez-vous ? » Eh bien parce que, je crois qu'on voyage parce qu'on a envie de s'ouvrir au monde.
Oui. Est-ce que le meilleur du voyage, c'est l'anticipation, comme le remarque si bien Alain de Botton dans son art du voyage, Gavin Clément-Ruiz?
Je pense qu'il faut un petit peu les deux, anticiper et en même temps complètement improviser, sinon c'est pas vraiment le voyage. Et puis sur place, c'est ça qui est rigolo. Souvent c'est parce qu'on a vu le chemin qui est devant nous, qui est fermé ou qui est bloqué, et puis on va bifurquer, on va prendre le chemin à droite, à gauche, et tout d'un coup, on va trouver l'adresse merveilleuse.
Sandrine Mercier.
C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué avec tous les outils Internet qu'on a à notre disposition. On a l'impression qu'on a déjà fait le voyage avant de partir. Donc, c'est un peu bête, je dirais même, d'utiliser ces vues à 360 degrés de sa chambre, de savoir exactement à quelle heure on va aller manger dans tel restaurant. On a même le menu affiché. Donc, il n'y a absolument aucun imprévu, alors que le voyage, c'est quand même ça, c'est l'imprévu. C'est pour ça qu'on y va, c'est aussi pour se perdre. Si tout est balisé, je ne vois pas l'intérêt de quitter son canapé.
Sophie Joviard.
Oui, il faut se faire confiance, il faut faire confiance aux autres, il ne faut pas avoir peur des autres, il faut vraiment aller à la rencontre des autres. Et puis, oui, moi je suis pour l'improvisation en voyage, en l'ayant un peu balisé, en effet, en se préparant un tout petit peu. Mais s'il vous plaît, improvisez quand vous êtes en voyage.
Guy Métodicino.
Oui, mais c'est très bien, mais il ne faut pas voyager à ce moment-là avec, vous savez, les grands organisateurs. Vous savez, ceux qui vous disent « Ah non, non, mais à 8h12, on avait prévu de faire ça, mon Dieu, mais ça, c'est terrifiant.
Ouais.
Alors, l'Europe reste l'une des destinations préférées des Français. Quelles sont les villes préférées de ceux qui fréquentent le site du Routard, Gavin Scrimatruise?
Eh bien, sur routard.com et puis dans le commerce, hein, dans les librairies, on a Londres qui marche toujours très très bien. Il y a Paris qui reste quand même une des destinations principales des Français. Ça reste une valeur sûre. Il y a Rome, il y a Venise, l'Italie, toujours un gros point d'attaque. On a un tropisme très fort pour l'Italie. Et Barcelone, vous l'avez dit, c'est vraiment une destination. Et Lisbonne qui, ces dernières années, ça fait une petite dizaine d'années maintenant, qui a explosé et qui vraiment est submergé de touristes. Et j'ai envie de dire heureusement, parce que ça a créé plein de situations heureuses sur place.
Alors à propos de submersion, à Barcelone, les habitants sont excédés par le tourisme alcoolisé, le fameux tourisme de la biture. À Venise, les habitants sont noyés par l'invasion touristique. L'île grecque de Santorin a même pris des mesures restrictives, pas plus de 8000 touristes par jour pour accéder à ce petit paradis. Qu'en pensez-vous, tiens, Sophie Joviard?
Bah, vous faisiez référence à Santorin. Santorin, c'est une toute petite île, 76 km2. Je crois qu'il y a des pics de fréquentation à 70 000 visiteurs par jour en plein été. C'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Alors, c'est vrai qu'on se souvient des banderoles à Barcelone, Tourist Go Home. Alors, c'est un petit peu violent, d'accord. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention, hein, à Venise. Venise est asphyxiée, complètement asphyxiée. Donc, il faut vraiment se poser la question. Il faut qu'on soit des touristes aussi responsables. Je pense aussi qu'on peut essayer de voyager hors saison. C'est pas donné à tout le monde, j'entends bien. Mais là, sur les ponts du mois de mai, par exemple, profiter d'un séjour au mois de mai pour aller visiter Santorin, par exemple, plutôt qu'en plein été, et de ne pas saturer des endroits comme Santorin ou les Cinque Terre, hein.
C'est où?
C'est le même problème en Italie, c'est le même problème. On a fermé des sentiers dans les Cinque Terre justement pour canaliser le flot de touristes, mais malheureusement, on peut en citer plein, hein. On peut citer Amsterdam également, qui est une ville qui souffre de surfréquentation touristique.
Sandrine Mercier.
Alors, je crois qu'à Venise, maintenant, ils ont évité justement de faire débarquer les gros bateaux de croisière directement sur la Sérénissime pour éviter, parce qu'avec aussi les vagues que provoquent les gros bateaux, ça grignote sur la lagune et ça pose un vrai problème écologique.
Et Venise a mis en place une taxe, hein, qui va de 2,5 € à 10 €, hein, pour entrer dans la ville. Une taxe qui vise les touristes d'un jour et non pas ceux qui s'acquittent de la taxe de séjour.
Alors il paraît qu'ils ont même mis des portiques. Alors moi je ne suis pas allée récemment pour compter, pour vraiment instaurer un nombre de visiteurs maximum. Alors quand vous arrivez, je ne sais pas, à 5000, pof, le portique est bloqué. Comme dans les grandes expos à Paris, vous attendez qu'il y en ait 3 qui sortent pour en faire rentrer 3 à nouveau. Alors je ne sais pas comment ça va marcher. Hein.
Qu'est-ce que vous en pensez, Gavin Scrimatruise?
Bah, je pense que ça va devenir peut-être utile et nécessaire pour ces destinations, en effet. Après, c'est vrai que l'interdiction, c'est pas dans l'esprit routard. On n'aime pas les règles, les lois, c'est pas notre... En même temps, on a envie d'y retourner quand même, donc il va falloir qu'on continue. Après, c'est aussi les moyens de transport pour y aller qui vont peut-être être obligés d'être adaptés. Est-ce qu'on doit y aller en avion? Ça pollue. Est-ce qu'on doit y aller en train? C'est un peu mieux. Est-ce qu'on peut y aller à vélo? Pourquoi pas?
30 millions de touristes par an quand même à Venise. Il faut réguler à un moment la fréquentation touristique. Il faut se poser la question.
Ça va devenir nécessaire.
Bonjour Eudes Girard, bienvenue.
Oui, bonjour.
Vous êtes géographe, co-auteur du très bon livre Du voyage rêvé au tourisme de masse. Voyager, c'est un rêve qui peut vite devenir un cauchemar pour tous ceux qui habitent ces villes européennes saturées, hein.
Oui, alors effectivement, parce que les habitants le ressentent comme une invasion, notamment à travers la perturbation du marché immobilier, puisque vous avez maintenant dans certains quartiers beaucoup plus d'appartements qui sont destinés aux touristes que des locations pour les habitants qui voudraient y rester à l'année. Et donc du coup, cette raréfaction du marché immobilier classique fait que les prix augmentent considérablement et qu'on est dans les transformés finalement. Les villes se transforment dans des espaces destinés au tourisme, d'où le sentiment d'invasion, également renforcé par souvent des comportements nocturnes, parce que dans beaucoup de villes, notamment je pense à Barcelone, ce sont des villes méditerranéennes, on y vit beaucoup la nuit en fait, et donc du coup, voilà, vous avez une pollution sonore qui est aussi très importante, d'où ce sentiment d'invasion.
Et de votre point de vue de géographe, est-ce que ce tourisme de masse défigure vraiment certaines villes européennes?
Alors oui, dans la mesure finalement où tout est fait maintenant pour les touristes, c'est-à-dire que les îles deviennent des espaces conçus pour eux finalement, et la vie urbaine classique, la vie quotidienne classique au sein des îles finalement est clairement perturbée par ces mécanismes-là. Parce que concrètement, ça veut dire que vous n'avez que des boutiques à touristes dans certains quartiers, y compris d'ailleurs à Paris. Hein, doit essayer de trouver une boucherie autour de la place des Vosges à Paris, c'est pas évident. Voilà, vous n'avez que des boutiques à touristes et la vie quotidienne et les boutiques classiques reculent considérablement. Donc oui, il y a de fait une perturbation sur le marché foncier, sur la vie quotidienne des habitants.
Sophie Jouvillard.
Oui, il ne faudrait pas que les paquebots remplacent les gondoles hein, à Venise.
Que pensez-vous de ces mesures anti-touristes, Girard?
Alors, elle pose, alors effectivement, c'est aussi encore une fois le cas de Barcelone, elle pose la question de l'intervention du politique et de l'autorité politique, voire de l'autoritarisme politique, sur le marché foncier et le marché immobilier libéral. C'est clairement ce qui s'est passé à Barcelone. Alors effectivement, il y a eu une dimension un peu salutaire, hein, parce que il fallait bien prendre des mesures, et cette politique urbaine a consisté à interdire dans certains quartiers, notamment dans le cœur de Barcelone, interdire carrément des processus de location par Airbnb, puisque en fait il y avait déjà une saturation très importante. Donc oui, elles se mettent dans ce cadre-là, mais effectivement, on n'est plus du tout dans un marché immobilier libéral. Mais à la limite, pourquoi pas? Mais donc il faut accepter une forme d'autoritarisme politique.
Sandrine, merci.
Oui, vous posiez la question si cette surfréquentation abîme en fait la ville. Moi, j'étais à Dubrovnik il y a pas très longtemps, et c'est vrai qu'il y a peu de temps, dans la vieille ville, il y avait 3000 habitants, donc des vrais habitants de Dubrovnik, et aujourd'hui il ne reste plus que 800. Donc c'est pour vous dire que, par exemple, quand le vieux ou la grand-mère meurt et qui récupère l'appartement, souvent les jeunes préfèrent le vendre à des organismes qui vendent après qui louent en Airbnb, et eux, avec la même somme d'argent, peuvent s'acheter une maison avec une piscine à l'écart de la ville. Et du coup, on se retrouve dans une ville musée. Il y a presque plus d'habitants, il faut vraiment marcher sur les hauteurs pour rencontrer encore la vieille qui pend son linge et qui arrose ses plantes. Donc c'est des villes qui n'ont plus vraiment beaucoup d'intérêt à part les vieilles pierres.
Par contre, c'est vrai que moi je parle de Lisbonne aussi, où ça fait 15 ans que je sillonne la ville vraiment tous les ans. Et en fait, là par contre, j'ai vu la transformation réelle de la ville. Alors, ça, quelque part, ça a apporté du bon, parce que les vieux bâtiments qui étaient en train de s'effondrer ont été rénovés. Il y a des places vraiment sublimes maintenant où on peut se promener. Alors c'est sûr qu'il y a une surfréquentation, mais il y a aussi eu un intérêt économique pour ces endroits.
Puis il y a ce petit détail qui gâche l'ambiance, c'est-à-dire vous vous promenez dans une vieille ville d'une ville étrangère et vous n'entendez parler que français, par exemple.
Merci beaucoup, Ed Girard, d'être intervenu ce matin. Je sais, c'est kitsch, Freddie Mercury et Montserrat Caballé.
Non,
je me fais le porte-voix de notre réalisatrice Stéphanie Texier, qui trouve ça très kitsch. Donc, Gavin.
Je pensais que vous alliez chanter, Ali.
Gavin Clement-Ruiz. Vous avez choisi Barcelona en dépit des 32 millions de touristes qui se déversent chaque année dans Barcelone, 20 fois sa population. Pourquoi ce choix en dépit de la saturation de la capitale de la Catalogne?
Parce que c'est toujours des villes très dynamiques après, quand même. On peut dire ça après. C'est vrai qu'au niveau architectural, il y a des restaurations qui sont vraiment géniales, il y a des endroits qui sont vraiment sympas. Moi j'aime bien, par exemple, c'est là ma collègue qui en revient m'a dit, je suis tombé devant l'hôpital de la Santa Cruz, c'est là où est mort Güell, qui a créé le fameux palais Güell, et c'était au 15e siècle, c'est gothique, ça a été restauré, et alors on parle de la sursaturation de cette ville, et là tout d'un coup, on est dans un ancien hôpital qui a été transformé en jardin, c'est hyper calme. Si vous avez envie de vous reposer un tout petit peu, vous allez dans le palais de la Santa Cruz. Et le soir, il y a une petite adresse que j'aime beaucoup, c'est El Jardí. Et là, vous allez être au milieu des jacarandas, au milieu des rosiers, des orangers. Ça sent super bon pour un petit dîner en amoureux. C'est vraiment sympa.
Redonnez cette adresse.
El Jardí. C'est à côté de l'hôpital de la Santa Cruz.
Et où boire une bière?
Où boire une bière? Alors là aussi, le côté, il a soif. Là, avec modération toujours.
Bien sûr.
Et il faut. Là aussi, c'est le côté très novateur de la ville. C'est Jean Nouvel qui a restauré la brasserie Moritz, la fameuse bière qu'on boit en arrivant, qui a des origines alsaciennes, comme on ne sait pas assez, mais on l'entend avec le nom. Et donc, on prend des petits tapas qui ont repris l'imaginaire alsacien. Vous allez voir, c'est assez rigolo. On prend sa bière bien fraîche, et surtout, on est dans un lieu imaginé par Jean Nouvel. Donc Donc c'est complètement surréaliste. Il y a le côté ancien et le côté très moderne, c'est ça que j'aime bien.
Rappelez le lieu où aller à Barcelone pour éviter la cohue.
L'hôpital de la Santa Cruz, l'ancien hôpital de la Santa Cruz.
Sandrine Mercier, Barcelone éclipse souvent le reste de la Catalogne. Vous nous conseillez de passer un week-end dans l'arrière-pays de Lleida, à 2 heures des célèbres Ramblas.
Oui, c'est vrai que j'avais fait un reportage là-bas pour le magazine AR. Et là, j'ai vraiment découvert qu'en quittant Barcelone, en 2 heures, on peut visiter vraiment, c'est un carnet de campagne, hein, comme on les aime bien aussi sur France Inter. C'est vraiment l'arrière-pays avec, il y a un village, par exemple, à Penelles, où vous trouvez plus de 50 fresques d'artistes sur les murs. Ils ont peint sur les hangars agricoles, ils ont peint sur les vieilles maisons abandonnées. C'était un village complètement en perdition. Et depuis qu'ils font venir ces artistes, ces street artistes de chaque année au mois de mai, c'est vraiment un super spectacle. On les voit peindre en direct et toutes ces fresques restent sur les bâtiments. Donc ça fait venir vraiment maintenant des tas de visiteurs. C'est vraiment, vraiment chouette. On voit des chouettes bleues qui ouvrent leurs ailes. On voit des mosaïques de renards géants sur des hangars. Et un peu plus loin, on peut prendre le train des lacs. Là, on se croirait vraiment dans le Far West, dans l'Ouest américain. On traverse des canyons, enfin c'est complètement inattendu de cette région. On est à 2 heures de Barcelone et à l'arrivée à Salas de Pallars, il y a un village à nouveau. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de rural, mais c'est la vraie Catalogne, j'ai envie de dire. Et là, il y a un collectionneur qui a déversé toutes ses collections d'anciens produits de coiffeurs, d'épiceries, de bars, de pharmacies. Il a réouvert tous ces petits commerces. On a l'impression d'être au début du XXe siècle. Et c'est vraiment des endroits comme ça où on se sent loin de la ville, justement, loin de Barcelone et de ses avenues ou ces rues de la piste, comme ils disent sur place quand ils s'amusent là-bas, parce que le matin, quand vous sortez de chez vous, c'est vraiment pas agréable. Et on a même à Montsec, on a un parc astronomique et c'est tout ce massif de montagnes est un des plus beaux endroits au monde, un des plus purs ciels du monde pour voir les étoiles le soir. Il n'y a pas un seul nuage pendant 300 jours. C'est une sacrée publicité quand même pour cette région.
Et là, on est dans l'arrière-pays de Lleida, c'est
ouais,
ça ?
Ouais, on est à Montsec exactement pour le parc astronomique.
Allez, quelles destinations européennes conseillez-vous pour un week-end ? Certains appellent ça des city breaks. Racontez-nous tout au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Alexia Rivière et Claire Destacan m'ont aidé à préparer cette émission avec Nicolas Beauve et c'est réalisé par Stéphanie Texier. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. I had to face another day. Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind. You're the key to my peace of mind. 'Cause you made me feel. Claim it. Qu'est-ce que ça fait du bien, Aretha Franklin, le titre Guillemette Odissino.
A Natural Woman.
Alors allons-y franchement, hôtel des voyageurs.
Grand bien vous fasse.
Les Galapagos, les allées houssiennes, je leur en fous, moi, des voyages.
Sur France Inter.
10h26 et ce matin, à deux semaines des élections européennes, nous vous proposons quelques escapades qui font du bien en Europe. Le temps d'un week-end et Mathieu nous dit, vous parliez d'économie d'énergie et de changement de mode de vie pour sauver la planète et aujourd'hui on cause week-end à Venise. Aller-retour en avion compris, vous devriez faire une émission sur la cohérence. Mathieu, mon cher Mathieu, si vous m'avez bien écouté au début, on a parlé de train, de bus, on peut y aller à vélo aussi, pourquoi pas à Bruxelles ou je ne sais où, Gavin Clement-Ruiz, on n'est pas obligé de prendre l'avion Europe.
Moi, j'attends l'avion électrique avec impatience. On prévoit normalement 2020-2030 et on nous dit qu'on pourra faire Londres-Amsterdam avec une compagnie à bas prix que je ne nommerai pas en avion électrique, donc en 2030.
Sophie Jovillard.
Oui, on peut voyager en France aussi, la plus belle destination mondiale. Et en effet, on n'est pas toujours obligé de prendre l'avion. C'est bien aussi le voyage à un rythme lent.
Sandrine Mercier.
Alors moi, je suis d'accord avec Mathieu. C'est vrai que c'est une hérésie aujourd'hui de dépenser du carbone pour un week-end. On est quand même dans une urgence climatique. Et par exemple, les Suédois, on en parle dans le dernier AR, ils ont inventé un mot qui s'appelle le flygskam, je me lance, le flygskam. Ça s'appelle la honte de voler. Alors les Suédois étaient les plus gros consommateurs, en fait, 4 fois plus que la moyenne européenne pour dépenser justement des week-ends en avion. Et maintenant, ils ont décidé de reprendre les trains de nuit. Et ils ont même un mot pour dire à quel point c'est bien et on a une bonne conscience de revoyager en train, en bus et d'abandonner. Il y a cette honte de voler, donc.
Mais si on était cohérents, s'ils étaient cohérents, ils abandonneraient également leur portable, leur connexion Internet, etc. Vous voyez, si simple que ça.
On peut aussi compenser son empreinte carbone en s'associant, en donnant, en faisant des dons à des associations pour replanter, replanter des arbres.
Il y a eu un message cette semaine de Jean-François Rial, qui est le PDG de Voyageurs du Monde, qui a demandé à ce qu'on plante des arbres, justement. Il va le faire, et il le fait pour compenser le CO2
consommé. Il ne faut pas diaboliser non plus les compagnies aériennes.
Guillemette Odissino.
Mais le train de nuit, c'est tellement bien.
Malheureusement. Et il n'y a plus les petites cabines où... Moi, j'étais dans une petite cabine avec ma maman quand on prenait le train. Non, mais c'est vrai, c'est des souvenirs, ça.
Elle a les yeux qui brillent.
Mais c'est vrai, bien sûr que c'est des souvenirs d'enfance. On n'a pas besoin de faire le transsibérien pour avoir des souvenirs de cabine de nuit.
Arriver à Venise en train de nuit, je ne vous raconte pas, c'est sublime. On arrive le matin, on est au milieu de la lagune, c'est sublime.
Alors attends, on est dans cette rue-là.
Ouais.
Pour aller à Big Ben, normalement, on tourne à gauche, puis à droite, on passe le pont et on y est, quoi.
T'es sûr, là?
Bah, je suis sûr, je sais pas.
Tu veux pas qu'on demande à quelqu'un?
Ah non, c'est là, ça fait touriste, ça.
Bah, on est des touristes.
Ouais, c'est pas con.
Bah oui.
Ouais, attends. Excuse-moi. We are, comment dire, rue en anglais?
Street?
Oui, c'est ça. Voilà, in that street, and the...
We want to go to the Big Ben.
Big Ben. Ok, alors vous prenez la première à droite et la deuxième à gauche, vous y êtes.
Non.
Mais qu'est-ce qu'il y a?
Mais non, vous voulez parler anglais, nous.
Ah, excusez-moi.
Ah, mais c'est chiant.
Oh, merde. Bon, c'est pas grave, on va demander à quelqu'un d'autre. Excuse me.
Oui, je peux vous aider?
Ah non,
c'est pas mal, il y a des Français ou quoi?
Il y a plus de rosbif ou quoi, là? Oh, debout, là, oh.
Extrait d'un gars et une fille. Alors, Gavin Clement-Ruiz, rédacteur Routard, vous avez choisi Londres pour un week-end avant ou après le Brexit. Ça reste l'une des destinations préférées des Français. Ouais. Une balade peut-être hors des sentiers battus.
Ça reste justement, je reviens là-dessus, très très apprécié des Français parce que l'Eurostar, c'est hyper facile en 2h30 depuis Paris. Alors, une balade que j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien aller dans une pas loin de la Wallace Collection. Tout le monde va au British Museum, tout le monde va à la Victoria and Albert Museum. C'est sublime. Il faut y aller. La Wallace Collection, c'est un petit musée, on dirait un musée de cartes postales. C'est hyper paisible, hyper calme. Il n'y a pas grand monde, il y a des vieux parquets qui craquent et c'est sublime au mur. Et juste à côté, il y a une adresse de délicatessen à l'anglaise. Les messieurs, ils sont bien ceinturés dans leur tablier blanc. Ils ont un petit chapeau et ils vous servent un pastrami. Je vous raconte même pas, c'est à tomber par terre. À des prix pour Londres, c'est vraiment très très bon marché. C'est même pas à 4-5 livres le sandwich ou la soupe bien chaude en hiver. Là, en même temps, en ce moment, c'est pas mal.
Le nom du délicatessen ?
Alors, c'est Paul Roth and Delicatessen. C'est vraiment une adresse typique, bien cachée. Je l'ai trouvé par hasard en prenant un petit chemin de traverse, justement, à Londres.
Et le musée méconnu ?
Alors, le musée méconnu, la Wallace Collection, c'est quand même assez connu, mais c'est moins fréquenté que les autres grands musées.
Et puis, il y a la National Portrait Gallery aussi, qui est une merveille.
Oui, c'est juste à côté. C'est pas beaucoup plus loin. Mm. Ce qui est bien à Londres, justement, c'est qu'on peut tout faire à pied. Là aussi, c'est pas mal pour l'empreinte carbone.
Et puis, la plupart des musées publics londoniens sont
gratuits. On l'oublie souvent, mais le British Museum, la National Gallery, le Victoria and Albert Museum, c'est gratuit.
Où dormir, vous avez dormi.
Il y a plein d'adresses que j'aime beaucoup, mais si vous voulez, vous pouvez aller au Clink 78. C'est pas loin de la gare de Saint-Pancras. C'est une adresse vraiment très rigolote. C'est un ancien tribunal qui a été transformé en auberge. Alors c'est aussi bien pour les jeunes, auberge de jeunesse, mais aussi bien pour des chambres doubles, pour des personnes qui sont un peu plus âgées, on va dire. C'est ouvert à tout le monde. Ce qui est rigolo, c'est qu'on peut dormir dans les cellules où étaient enfermés les préjugés. Donc il y a eu Charles Dickens qui est venu ici et qui a été enfermé, qui a écrit une partie d'une de ses œuvres. Il y a aussi les Clash qui sont venus là. Moi j'aime bien. Faut pas être claustrophobe. Hein. On vient vous fermer puis on ferme bien la porte devant vous avec la porte qui tourne. Et c'est vraiment sympa.
Rappelez le nom.
Alors c'est Clink 78 et ça coûte entre 20 et 30 livres la nuit par personne. C'est vraiment très très bon marché pour Londres parce que c'est pas gagné.
Tiens, on va aller à Gand en Belgique, facilement accessible en train, en Thalys. Qui a choisi Gand autour de la table?
Alors moi j'avais choisi Charleroi, c'est
en
Belgique.
Alors non, pardon, c'est Sarah Dawelibi qui avait choisi Gand, mais n'est pas là, on va la reprendre. En revanche, vous avez choisi Charleroi, Sandrine Mercier.
Une autre ville
de Belgique. Pourquoi Charleroi, qui n'est pas réputée pour être la ville la plus belle au monde, même si c'est là où...
C'est ma grand-mère est née à Charleroi, donc je vous remercie.
Et dans ce dernier numéro, on parle de Bagnole de l'Orme, mais vous m'avez dit que c'est votre tante.
Et là, c'est ma tante, habite là.
Alors Charleroi, oui, parce que c'est quand même une ville qui a de la gueule, même si elle a été élue la ville la plus moche du monde.
C'est bien de lui redonner ses lettres de noblesse.
C'est pour ça aussi que ça vaut le coup d'y aller. Ce serait vraiment une grave erreur.
C'est génial déjà de dire ça. Je suis dans la ville la plus moche du monde. C'est super.
Les pauvres. C'est pas parler comme ça.
Non, mais ils savent surfer là-dessus justement. Parce que c'est vrai que la ville était une des plus riches du monde par contre au 19e. Et puis bon, c'est les hauts fourneaux, les mines, tout ça a fermé. Et aujourd'hui, c'est vraiment une ville unique. On peut se balader dans des friches industrielles. Il y a des parcours de street art le long de la Sambre. Ils ont l'ancienne fabrique de papier pain qui s'appelle la manufacture urbaine. Aujourd'hui, on brasse de la bière à l'intérieur, on fait du pain, on fait la fête. C'est vraiment des lieux alternatifs qui sont très vivants. Et surtout, il y a les Carolos. Alors les Carolos, c'est les habitants de Charleroi. Ouais. Eh ben, c'est votre grand-mère. C'est vraiment la grand-mère la plus sympa du monde.
Ouais, carrément. Non. C'est vrai. Vous avez raison.
Les habitants sont vraiment, vraiment super, super sympas. Et il faut quand même savoir qu'à Charleroi sont nés les Schtroumpfs, Magritte, Lucky Luke aussi.
Et donc ta grand-mère.
Et donc les amateurs de BD aussi trouveront vraiment de quoi faire. C'est vraiment une ville, une ville dans la déroute et on peut faire des balades urbex. On peut aller comme ça, crapahuter dans des anciennes usines qui ont fermé. On fait ça un peu en loose day, quoi.
Gavin Clement Ruiz. Charleroi,
c'est ma grand-mère. Non, moi j'ai des souvenirs. Alors, je l'ai vu quand j'étais tout petit et c'était vraiment à l'abandon et tout ça. Et là, ces dernières années, c'est magnifique. Au niveau du tourisme industriel, c'est vraiment génial. Si vous voulez vous détendre pour un week-end, c'est vraiment parfait. Pour une autre vision, il y a Gand. Si vous allez à Gand où tout est vraiment très propre, ou à Bruges encore plus, on se croirait à Disneyland. Mais là, tout d'un coup, on va dire qu'on est dans la Belgique qui se recompose. C'est le nord avec les terrils, etc. Donc ça, c'est vraiment sympa.
Sophie Jovillard d'Échappée Belle sur France 5, pourquoi passer un week-end à Dublin? Pourquoi aller dans la capitale de la République d'Irlande?
Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, parce que c'est vrai, c'est vraiment une destination qui est très prisée des jeunes et des moins jeunes. C'est réputé comme étant une des villes les plus accueillantes d'Europe. Donc faut y aller parce que c'est vraiment une capitale à dimension de village, voyez. On peut vraiment s'y balader à pied, c'est très vivant et puis bon, l'esprit un peu viking et celte des Irlandais donne envie de se confronter à cette bonne ambiance qu'on retrouve dans les bars. Alors moi j'ai un coup de cœur de découverte et de balade, c'est vraiment découvrir le fleuve Liffey en kayak. C'est comme si finalement vous traversiez Paris sur la Seine en kayak. C'est vraiment le meilleur moyen de découvrir l'architecture d'une ville. Vous passez entre autres sous le pont Samuel Beckett. Vous comptez à peu près deux heures de balade. Et c'est quand même assez exceptionnel de découvrir une ville comme ça.
Je vous vois bien en kayak, Eric Libio.
Ah oui, vous devriez essayer. On le fait ensemble si vous voulez.
Mais avec plaisir. Mais j'ai déjà fait au Québec. Alors c'est pas en Europe. Hein, mais
merci.
Ah bah je vous le dis. Je sais pas si vous êtes très très bon en géo. Il paraît que vous êtes très nul en géographie. On l'a vu tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est très agréable de découvrir les côtes en kayak.
Ah, moi j'adore.
Du coup par l'autre côté. Alors que la ville, on fait.
Et puis c'est vrai que c'est une ville qui est en pleine tourmente hein, avec le Brexit, la situation irlandaise. Donc il faut aller les voir. Hein, ces amis irlandais.
Et où dormir ? C'est alors, une adresse ?
Oui, alors moi je vous conseillerais de quitter un tout petit peu le centre-ville à une heure de Dublin. Il y a un endroit qui s'appelle le Rock Farms Lane et c'est l'occasion de tester ce qu'on appelle le glambing, qui est un peu du camping glamour. En fait, c'est une ferme bio-organique où il y a différents types de logements. C'est à côté d'un très très beau château qui est la propriété de la famille. Et Karina, qui va vous accueillir là-bas, a complètement changé de vie. Elle a tout quitté pour s'occuper de cet endroit. Alors c'est très vert, très bucolique. C'est vraiment l'image de carte postale de l'Irlande. Mais voilà, ça nous donne envie de quitter un peu le centre-ville et d'aller vers ces beaux pâturages irlandais.
Et où aller boire une bière avec modération?
Alors,
évidemment.
Toujours avec modération, parce que c'est vrai, quand on voyage, hein, c'est un peu le maître étalon, la bière. Où est-ce qu'on peut aller boire une bière? Moi, je vous conseille d'aller dans un endroit qui s'appelle The Church. C'est dans une ancienne église, hein, l'église Sainte-Marie. L'église a été fermée en 1964 et c'est un bar depuis 1997. Alors, je sais que c'est pas très catholique d'aller boire une Guinness dans une église, mais allez-y parce que le décor vaut vraiment le détour.
Sandrine Mercier.
Alors, tu conseilles de boire une bière, mais on peut aussi fabriquer sa bière.
Oui, c'est vrai.
Et ça,
oui,
c'est vraiment quelque chose qui s'est développé ces dernières années dans les villes, c'est d'accueillir avec sous forme d'ateliers participatifs. C'est-à-dire, on part et on essaye de faire quelque chose en liaison avec la ville. Et ça, c'est vraiment, ça explose ces sortes d'expériences participatives. Par exemple, à Copenhague, c'est un Français d'ailleurs qui s'est installé là-bas et qui propose à vélo toujours des visites street art et design. Alors, on les trouve sur Airbnb Experience. Vous savez, dans les villes, maintenant, ils proposent des tas de rencontres avec des habitants. On peut faire aussi en Belgique, on peut apprendre à faire sa propre bière dans des micro-brasseries. En Suisse, on peut faire son couteau et même à Lisbonne, on peut apprendre à faire des pastilles, des natas.
Ah, c'est bon, j'ai pas eu le temps, je voulais venir avec.
On va revenir, on va aller à Lisbonne tout à l'heure.
J'ai la meilleure adresse de pastèche.
On fait un concours.
Moi, je vais te parler de boîte de sardines.
Guillemette Odissino, on reste au Royaume-Uni. Vous nous conseillez de passer un week-end à Édimbourg, en Écosse.
Ah oui.
Une ville merveilleuse que vous avez visitée avec votre fille.
Absolument. Alors, un week-end, c'est un peu petit, hein. Faut courir partout.
Week-end de l'ascension, alors.
Oui, voilà, c'est un petit peu frustrant, simplement un week-end. 4 jours, c'est vraiment l'idéal. Ville. Ah, mais je suis ailée. Donc, ça veut dire que deux jeunes femmes de génération très éloignées peuvent tomber amoureuses de la même ville, déjà. Allez, on le dit, on le fait une bonne fois. Harry Potter. Donc, c'est la ville où J.K. Rowling a commencé à écrire. Vous savez, ce petit roman qui a plus ou moins marchoté en librairie. Et c'est vrai, mais c'est fou à quel point on vous dit souvent visitez telle ville, tel écrivain s'en est inspiré, puis vous êtes là, vous êtes dans les rues, vous dites ah bon, je vois pas du tout le rapport. Alors si, Édimbourg, on voit, mais grave le rapport avec Harry Potter, parce que par exemple dans Victoria Street, qui a inspiré le chemin de traverse, la rue de traverse, mais c'est exactement ça. Avec en plus quand même des chouettes bistrots, des salons de thé, des petites boutiques cool. Mais c'est exactement ça. On a la vue sur le château d'Édimbourg qu'elle a beaucoup regardé. Donc on n'est pas quand même pas loin de Poudlard dans l'ambiance. Donc le centre d'Édimbourg est une merveille et il y a le cimetière où elle est allée traîner. C'est l'un des plus beaux. J'adore les cimetières et c'est l'un des plus beaux cimetières que j'ai vus. Et si vous cherchez bien. Et c'est bien parce que c'est pas trop fléché, donc il y a comme une enquête dans les allées du cimetière. Eh ben vous tombez sur la tombe de Voldemort quand même.
Qui connaît Édimbourg autour de la table?
Je rebondis sur Harry Potter. Guillemette, s'il faut aller à Porto, vous allez trouver la librairie où il paraît qu'elle s'est inspirée aussi pour Leilo et Imrmao. Là, ils ont été obligés d'imposer l'entrée à 5 euros, tellement il y avait de gens qui
venaient
visiter.
Donc si ma fille écoute l'émission, c'est bon.
Donc, Porto, la prochaine fois,
Guillemette. La prochaine fois, on va à Porto. Mais, et en plus, une fois que vous avez été dans la vieille ville d'Édimbourg, vous êtes promené, là aussi, un accueil incroyable. C'est vrai, les gens sont accueillants, sympathiques, dans les bistrots. Ils vous regardent pas comme le touriste de base. C'est très sympathique. Il y a de la verdure. C'est pas à Diborne, hein. C'est-à-dire, vous marchez un quart d'heure depuis la cathédrale, et là, soudainement, mais c'est un paysage. Bon, après, vous pouvez aussi prendre le bus et aller voir le monstre du Loch Ness, mais il y a le siège d'Arthur, il y a cette espèce de colline magnifique, on voit toute la ville, on voit la mer, c'est une non mais franchement, il y a tout dans cette ville, il y a tout.
Ouais, donnez envie, Guillemette. Un courriel de Lucie nous demande pouvez-vous parler des villes européennes à éviter ou à conseiller pour les personnes en fauteuil roulant? Gavin Clément Ruiz.
Je dirais tout de suite, il faut pas aller à Lisbonne parce que ça monte et ça descend beaucoup.
Oui,
il y a plein de pavés aussi, et c'est vraiment pas du tout.
Alors moi, j'aimerais qu'il y ait de plus en plus de villes accessibles aux personnes en situation de handicap, et je voudrais vous conseiller d'aller visiter le site de youla.fr, Y2OLA, qui s'occupe des personnes justement en situation de handicap pour leur faciliter l'accès à des événements culturels ou sportifs, mais aussi à des destinations touristiques. J'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font, ils sont vraiment très bien. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui ont bénéficié de leurs services, ils sont très sérieux, et vraiment chapeau à cette initiative qui permet vraiment à tout le monde de voyager.
Youla.fr.
Amsterdam, si je ne me trompe pas, c'est une ville assez praticable aussi, je pense.
Allez, n'hésitez pas à nous conseiller quelques escapades européennes, quelques lieux secrets au 01 45 24 7000.
Quand je vois dans tes yeux d'enfant que je deviens con, tout petit tellement je suis un grand petit con. Quand je vois dans tes yeux d'enfant que je deviens con, tout petit tellement je suis un grand petit con.
Je vous passe devant, j'étais là avant vous, vous ne m'aviez pas vu. Je n'ai pas une minute, à moi ni à personne, je suis mon propre but. Au grand petit con.
Quand je vois dans tes yeux d'enfant que je deviens con, que tout petit tellement je suis un grand petit con.
Un grand petit con.
C'est pas ce que je veux, c'est pas ma vie, j'ai pas envie. Est-ce que je suis ce vieux gris tout ridicule?
Grand petit con. Oui, je vous regarde, Eric Libio.
Je suis pas si grand que ça, non plus.
Grand bien vous fasse. Ali Rebéi.
Et ce matin, à 10h45, à deux semaines des élections européennes, nous vous proposons quelques escapades qui font du bien en Europe, à pied, à vélo, en train, en voiture, et pourquoi pas aussi en avion, le temps d'un week-end. Sandrine Mercier, rédactrice en chef de la revue AR. Et si on partait faire un petit tour en Suisse, en train, pour un long week-end à la Pentecôte ou à l'Ascension. Parce qu'il existe un Swiss Travel Pass. Expliquez-nous ce que c'est.
Oui, c'est vrai que c'est la couve du magazine qui sort là, mardi à R. Et alors, un week-end vraiment sans ma voiture, ça peut être une bonne idée. Ça permet d'avoir de développer d'autres idées, d'autres manières de voyager.
C'est quoi ce pass ?
Alors, le Swiss Travel Pass, pendant 4 jours, donc ça coûte 230 euros. Vous pouvez voyager gratuitement, avec 230 euros. Mais vous pouvez prendre le bus, le bateau, tous les trains. Vous avez même accès à plus de 500 musées. Oui, les bus dans les villes, par exemple. Alors, si vous arrivez par exemple de Paris, vous pouvez aller directement sur Genève. Là, vous prenez le train pour aller à Zermatt. Et là, c'est les rois. Bah oui, c'est vraiment la patrie des trains quand même. Les Suisses, ils ont très très beau réseau ferré. Ils ont pas que du chocolat, des montres ou des couteaux. Et donc, quand on arrive à Zermatt, on prend ce fameux train panoramique qui s'appelle le Gonergrad. Et on arrive quand même. On est projeté directement à 3000 mètres. Et là, on est face au mythique Cervin. Vous savez qu'il y a la forme de pyramide. Il paraît d'ailleurs que ça aurait inspiré le Toblerone.
Ouais, exactement.
Cette montagne aurait inspiré le Toblerone. Et de là, quand même, on voit absolument un panorama dingue. Il y a plus de 29 pics qui font plus de 4000 mètres. On est là au milieu, on est venu en train, on n'est même pas venu à pied en respirant difficilement l'air. Donc après, on redescend à pied, par contre, ça c'est une bonne possibilité. Et de Zermatt, pour le jour 2, on prend un nouveau train, le Glacier Express. Là, il y a des vitres partout. Vous êtes entouré, le toit partout. Oui, que vous connaissez, Sophie. Et là, on peut aller jusqu'à Coire. On traverse les plus beaux paysages alpins sans transpirer, pour le coup. Là, on est tranquille. On se repose et on arrive à Coire. Et c'est la plus vieille ville de Suisse. Donc, on peut aussi la découvrir à pied, c'est sympa. Et le lendemain, on reprend un train. Et là, on peut se faire l'escapade de culture. On va sur Zurich. Par exemple, en ce moment, ils vont réouvrir le pavillon Le Corbusier. Ça, c'est demain, d'ailleurs, à Zurich. Ou on peut aller sur Bâle. Et là, il y a l'expo, par exemple, en ce moment, Picasso à la Fondation Bayeler. Et après, on rentre à Paris, on continue de prendre le train. Et
voilà l'exemple même du voyage au rythme lent. Hein,
Sophie Jovillard, qu'il faut vous conseillez la Suisse aussi ?
Oh, oui, parce que je crois que tout ce que tu viens de décrire est absolument exceptionnel. Et puis, c'est vrai qu'une fois de plus, j'insiste sur la qualité du réseau ferré en Suisse. Je pense que c'est peut-être le meilleur moyen de transport pour découvrir cette destination.
Gavin Clement Ruiz, du Routard.
Routard sur la Suisse, avec les voies ferrées. En effet, c'est le Zurich. Moi, j'aime beaucoup cette ville. On peut tout faire à pied, là aussi. C'est un condensé de montagnes, de villes, d'urbanité, mais très, très simplement abordable. Moi, j'ai adoré cette ville. Ça m'a vraiment fait du bien.
Un courriel nous demande, je suis une maman célibataire, j'aimerais bien voyager avec mon fils de 4 ans, y a-t-il des villes européennes favorables aux enfants? Gavin Clement Ruiz.
Ça, je teste tous les week-ends. j'ai envie de dire, Londres, ça plaît beaucoup, hein, c'est pour les enfants, le Science Museum, allez-y, le National History Museum, c'est génial, il y a des dinosaures, il y a des choses vraiment superbes que les enfants vont adorer, on monte dans un bus, on monte à l'étage, le fameux Double Decker, ça plaît beaucoup, et sinon Lisbonne aussi, là, il y a l'Océanorium que je conseille, c'est un des plus grands aquariums du monde, d'Europe surtout, avec un mélange des saisons. Donc on fait le tour, on est tout autour d'un grand bassin, et tout d'un coup il y a une loutre qui se promène avec un requin, qui se promène avec un autre animal, et on passe du froid au chaud, au tempéré, et donc c'est vraiment super pour expliquer aux
enfants. Rappelez le nom.
Ça s'appelle l'Océanorium, c'est au Parc des Nations, au nord de Lisbonne.
Et l'avantage avec Lisbonne, vous prenez un petit train encore, pendant 40 minutes, et vous arrivez à Cascais, vous êtes sur les plages, et là vous pouvez passer une journée pour vous baigner à la plage.
L'Alfama a conservé ses volets d'escalier, ses culs-de-sac tortueux, ses murs délavés et son esprit populaire. C'est le seul quartier à avoir résisté au tremblement de terre de 1755. Matrones imposantes, gamins espiègles, artisans affairés, voilà le vrai peuple haut en couleur de la Lisbonne séculaire. Agnès connaît bien ce quartier, car c'est là qu'elle travaille.
C'est Alfama, dans toute sa splendeur, donc avec un système très rigolo qui est un système de poulies pour étendre le linge. Ici, c'est un quartier très social, donc très peu de moyens. Plusieurs générations vivent sous le même toit, mais des toits qui sont vraiment exigus. Le paradoxe, donc, c'est ces ruelles petites, étroites, sombres, mais avec énormément de vie.
le quartier de l'Alfama à Lisbonne dans Échappée Belle sur France 5. C'est votre choix, Sophie Jovillard. Pourquoi Lisbonne en général et le quartier de l'Alfama en particulier?
Lisbonne parce que c'est vraiment un coup de cœur. Alors en général parce que Lisbonne se donne des petits airs de San Francisco avec son pont du 25 avril. Un peu de Rio aussi avec son Christ Roi, son Corcovado qui domine la ville et le Tage. Et en particulier l'Alfama parce que l'Alfama c'est vraiment le cœur battant de la capitale. Il y a une âme, il y a quelque chose de particulier quand même à Lisbonne. Alors, c'est vrai qu'on fait vraiment souvent référence à la saudade, hein, chère au cœur des amateurs de fado. Mais c'est vrai qu'il y a ça, il y a un caractère un peu particulier, un peu mélancolique, mais quand même avec des petites touches de joyeuses comme ça. Et j'empruntais un tuk-tuk parce que oui, il y a des tuk-tuks à Lisbonne maintenant pour se balader dans la ville des sept collines. Et la personne qui était au volant me disait à Lisbonne, on est heureux parce qu'on sait ce que c'est d'être malheureux. On a su ce que c'était d'être malheureux. Donc ça rejoint un peu cette idée de saudade, un peu nostalgique aussi. Mais c'est vrai que c'est une ville très très attachante, je trouve.
Gavin Clement-Ruiz.
Oui, moi j'aime bien l'Alfama. On est à l'est de la ville et c'est vraiment très facilement accessible. Il faut y aller le soir surtout. En fin de journée, il y a le soleil qui tombe, la pierre est ocre. Il y a une ambiance. Les bécots, ce sont les petites ruelles. On monte, on descend, là, il y a beaucoup d'escaliers, mais c'est vraiment, il y a plein de petits bistrots, on peut entendre le fado. Alors, bizarrement, pour le fado, moi, j'ai trouvé une adresse, mais qui n'est pas dans l'Alfama, c'est la Tascado Chico. Je suis passé, je vous jure, 10 fois devant. Je la voyais, c'était une toute petite échoppe, c'est dans le Bero Alto, c'est dans la ville haute. Et là, tout d'un coup, je voyais les gens qui rentraient tout doucement. Il y a très peu de tables, il y a une dizaine de tables. Et puis, vers 11h, il y a un monsieur qui a sorti sa guitare et qui s'est mis à chanter. Et je vous jure,
ça prend en trip, hein.
Les gens chantaient, vraiment, c'était hyper prenant. Ouais. La saudade, ça
le nom de l'adresse, le nom
Tascado Chico, c'est dans le quartier du Bero Alto. C'est la ville haute de Lisbonne.
Et où manger l'un des meilleurs pastels de Natal? Allez-y, faites-vous plaisir.
On n'est pas très loin de cette adresse. C'est sur la Praça do Camões. Camões, qui est le grand auteur.
Rappelez ce que c'est un flan. Alors,
la pasta de Nata, c'est un petit flan. C'est
dans
rond.
Une pâte feuilletée.
Dans une pâte feuilletée. On saupoudre.
Il y a
deux écoles.
Est-ce qu'on saupoudre de cannelle ou pas?
Ou pas. Alors voilà. Et c'est chaud. C'est servi chaud avec un petit café. Manteigarias, ça s'appelle. Manteigarias, ça veut dire le beurre. Alors ça veut bien dire ce que ça veut dire aussi après sur la composition. Mais c'est génial. Ils ont des bites, je ne sais pas combien par jour. C'est en plein cœur de la ville. C'est dans le Bero Alto, sur la Praça do Camões.
Sophie Jovillard.
Oui, alors moi je voudrais qu'on parle également des conserves, des boîtes de conserves, de sardines ou alors de poulpe, de calamars, parce qu'il y a une maison qui est une institution, justement dans les conserveries qu'on retrouve à Lisbonne, et il y a une maison qui est vraiment une institution, ça s'appelle la Conserveria de Lisboa, c'est depuis 1930, ça se trouve Rua de Bacalhaos, bien joué pour l'accent, hein, vous avez vu comme je parle bien, et c'est 2 euros la boîte. Alors pourquoi j'aime bien cet endroit? Parce que déjà c'est une toute petite boutique, une ambiance très familiale, et les boîtes sont très vintage, je vous conseille celles qui ont des têtes de chat.
Pour faire des cadeaux, c'est génial.
Ouais, 2 euros la boîte de sardines, ça vaut le coup.
Guimetto Di Sino.
Ah non, mais Lisbonne, moi je voulais dire comment elles ont été inventées les pastiades, parce que
les
pastéis de nata, parce que c'est un flan dans la pâte feuilletée, mais c'est un flan très jaune, hein. C'est bourré de jaune d'œuf. Pourquoi? Parce que ça a été inventé par des religieuses qui se servaient du blanc d'œuf pour amidonner leurs cornettes. Exactement. Et qu'est-ce qu'elles pouvaient bien faire avec les jaunes? Eh ben, elles ont créé ce dessert avec. Mais franchement, merci.
Non, mais c'est une merveille.
Merveille. Faudra que vous reveniez
sur place. On va faire une spéciale à lui.
Faudra que vous reveniez. Merci beaucoup. Hein. Merci Gavin Clement-Ruiz. On peut bien sûr se référer au guide du routard, Sandrine Mercier. On peut lire votre revue AR. Le tout nouveau numéro sort donc mardi avec la Suisse à la une. Et merci Sophie Jovillard. On peut regarder Échappée Belle tous les samedis soirs à 20h50 sur France 5. Allez, tout de suite, c'est l'heure d'Éric Libiot et de son éternel retour. L'éternel retour d'Éric Libiot de l'Express.
Eh oui, mais Ali, quelle présence d'esprit vous avez, incroyable, de faire une émission sur les voyages ce 10 mai. Alors que le 10 mai 1503, Christophe Colomb atteignait les îles Caïmans, que le 10 mai 1534, le navigateur de luxe Jacques Cartier atteignait, lui, Terre-Neuve, et que le 10 mai 1869, aux États-Unis, a eu lieu la jonction à Promontory Point dans l'Utah du premier chemin de fer entre la Centrale Pacifique partie de l'Ouest et l'Union Pacifique partie de l'Est. Événement d'ailleurs que filma Cécile Bénouville dans Pacific Express en 1939. Petite référence au cinéma, quelques jours du début du Festival de Cannes, destination de voyage préférée des cinéphiles, c'est dire si le mois de mai est un jour propice au voyage. Voyage dans le passé, dans le présent, mais aussi dans le futur, avec les prix du concours Lépine de la Foire de Paris 2019 qui ont été remis mardi 7 mai. Alors pour l'anecdote, Louis Lépine était préfet de police à la fin du 19e siècle, créateur de la brigade criminelle et donc du concours Lépine en 1902, destiné à lutter contre la crise qui frappait les quincailliers et les fabricants de jouets. Alors la liste est longue, des inventions évidemment qui ont disparu, mais il y en a aussi qui sont restées, comme l'ancêtre du stylo à billes, le fer à vapeur, l'aspirateur électrique et les semelles de crêpes inventées par un Breton. Non, ça, je suis pas sûr. La médaille d'or 2019 est allée au Leaf for Life. C'est un parasol en forme de feuille. Pas de prise au vent, mais une prise USB. Ont aussi été récompensés Simone, la trottinette pliable à encombrement réduit, très à la mode, et un drone bombardier d'eau contre les incendies. Alors parfois, les prix ne manquent pas d'ironie. Le prix du ministère de l'Intérieur, par exemple, a été ainsi remis au kit module gilet de sauvetage automatique. Mais on ne sait pas quelle couleur il a, si c'est jaune ou pas. Mais je trouve que l'ironie est assez amusante. On voit que les inventions ouvrent des perspectives. Mais la question philosophique que posent les inventions, faut-il partir de rien ou tenir compte du monde qui nous entoure? Car on en revient toujours à l'œuf et à la poule, en l'occurrence à la roue, dont on dit que son invention changea le monde. Qui de la roue ou de l'inventeur de la roue est arrivé en premier? Avant l'invention de la roue, par exemple, que disait-on quand un pan faisait justement la roue? D'abord, est-ce que le pan existait ou a-t-il attendu l'invention de la roue pour apparaître sur Terre? Peut-être qu'on disait qu'il faisait le beau, mais le beau n'est rien si le lait n'existe pas. Est-ce que le lait existait avant l'apparition de la vache? Alors bien oui, ce sont des questions qu'il faut se poser. Question que l'on peut résumer à une seule. Alors je vous simplifie le boulot hein, pour les révisions du bac philo. Peut-on vraiment partir de zéro? Zéro que l'on appelle métaphoriquement roue de bicyclette, comme quoi. Et là, je voudrais féliciter Bernard Jacquelot de Melun, primé cette année pour avoir inventé la roue pliable. Oui, la roue pliable. Pliée, elle permet effectivement de gagner du temps. Il paraît que les fabricants de poussettes sont très intéressés par cette invention. Mais ce qu'il y a de plus beau dans cette invention, c'est que le prototype, c'est juste une roue, donc qui se plie. Mais juste une roue, et en tant que telle, elle ne sert strictement à rien. C'est la beauté du geste des inventeurs, et je suis sincère. Des millions d'années après l'invention de la roue, Bernard Jacquelot réinvente la roue. La boucle est bouclée, et Bernard Jacquelot peut être fier comme un pan. Finalement, je ne sais pas si plus rien ne se crée, mais en tout cas, rien ne se perd. Tout se transforme et revient toujours.
L'éternel retour d'Éric Libiot de l'Express. Merci à la documentation de Radio France, aux standardistes de France Inter et à l'excellente programmation de Muriel Pérez. Lundi, dans notre émission Santé, on se demande quels sont les freins psychologiques qui nous empêchent de perdre du poids. Questions, témoignages au 01 45 24 7000. À la technique ce matin, Anne-Laure Cochet et Kevin Pelot. À suivre Nagui et sa bande originale.